Vous êtes sur RTL.
Pour ou contre de nouvelles restrictions en Ile-de-France, Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien, pour ou contre ?
Eh bien écoutez, moi je dirais qu'il faut arrêter de balader un petit peu les Français et qu'il faut prendre les bonnes décisions. Donc contre, ça fait 12 mois qu'on est confiné, donc un peu plus ou un peu moins.
Donc contre, on développe dans une seconde. Le rappel des titres, Christelle.
De nouvelles restrictions pour 18 millions de Français habitant en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Jean Castex fera ses annonces à 19h avec Olivier Véran. À quoi ressembleront ces nouvelles restrictions? Peut-on vraiment parler d'un reconfinement? Anne Hidalgo, la maire de Paris, demande de laisser des marges de respiration aux Parisiens. Sortir un peu plus longtemps qu'une heure et un peu plus loin qu'à 1 km. L'Agence européenne du médicament rendra son avis sur le vaccin d'AstraZeneca cet après-midi, suspendu depuis le début de la semaine. 6 Français sur 10 sont partis en vacances l'an dernier, un recul de 8% par rapport à 2019 et leur budget a baissé de 30% d'après le baromètre au Podo Rafour. 90% des Français ont choisi l'Hexagone. L'Espagne sur le point de légaliser l'euthanasie. Le texte prévoit que toute personne ayant une maladie grave et incurable ou des douleurs chroniques puisse demander l'aide du corps médical pour mourir. L'Espagne devient le 4e pays européen à dépénaliser la mort médicale. Assisté.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Christelle et Benjamin Sportouche qui est indispensable dans ces émissions d'avant-annonce. Puisque
bonjour Pascal.
Vous nous dites avec une prudence extrême ce que vous ne pouvez pas dire.
Ah non, parce que vous ne le savez pas.
Parce
que je sais. Voilà. Et vous savez qu'en fait c'est en train d'être décidé, mais on va en parler.
Vous pensez vraiment que c'est en train d'être décidé?
Ah, il y a une réunion, c'est une information que j'ai donnée tout à l'heure dans le journal, entre Premier ministre et Président de la République, c'était à midi, se sont retrouvés à midi à l'Elysée pour caler les choses parce que je pense qu'il y avait encore et bien des cogitations au sommet de l'État.
Sébastien est là, donc directeur d'une salle de spectacle à Paris. Sébastien, vous êtes contre de nouvelles restrictions?
Bah écoutez, Pascal, ça fait 12 mois que ça dure, toutes ces histoires. Donc là, il y a un moment donné, il va bien falloir que le courant de la vie reprenne, je dirais. Il y a énormément de professions, dont le spectacle dont je fais partie, le Grenier à Paris. Nous, on est fermé depuis presque le 17 mars. Donc, on aimerait
donc
que...
Donc, ça fait plus d'un an.
Ça fait plus d'un an. Et là, ça devient très compliqué. Je pense qu'au-delà de... Je l'ai déjà dit, mais au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise vraiment sociale qui est en train de se mettre en place. J'ai entendu il y a quelques jours qu'un jeune homme de 20 ans s'est défenestré du 6e étage parce que les gens n'en peuvent plus. Là, il y a un gros, gros problème. Et je pense que ça, le gouvernement n'en prend pas assez... n'en a pas assez conscience de cette crise-là. Donc je ne sais pas comment il faut procéder. Il est vrai que j'aimerais pas être à leur place non plus, hein, parce que c'est très compliqué de gérer ce type de crise. Mais il y a un moment donné, il faut quand même que la vie redémarre.
Le niveau d'acceptabilité, Benjamin Sportouche, il est évalué comment par le gouvernement?
Eh bien, il y a des sondages. Il y a des sondages qui sont faits par un service d'information du gouvernement. Qui a ses propres sondages. Il regarde aussi ceux qui sont commandés par les médias et il voit bien que les Français, le confinement lui-même a beaucoup moins d'adhésion qu'il y avait au mois de mars où il était très fort et même au mois de novembre. Il se rend compte aussi, le gouvernement, et ça c'est quelque chose qui peut aller dans le sens d'un confinement, et bien que les Français ont moins peur du virus, Pascal. Il y a un sondage qui est fait régulièrement par les services du gouvernement et ce sondage montre que 51% des Français aujourd'hui craignent le virus. Seulement 51%, j'allais vous dire, contre 59% il y a à peine quelques semaines. Donc ça veut dire que, si les Français ont moins peur, ça veut dire qu'ils sont peut-être plus en danger, qu'ils ne respectent pas les gestes barrières. Donc il y a à la fois le degré d'acceptabilité, mais aussi la menace d'un virus qui fait moins peur aux gens et donc qui peut encombrer davantage après les services hospitaliers. Voilà aussi des données qui sont prises en compte, j'allais dire au jour le jour, quand ils sont faits et quand ils sont communiqués au président de la République.
Mais cette notion de faire moins peur, c'est peut-être une chose intéressante à noter. C'est-à-dire qu'ils ont compris qui est touché principalement par ce virus et qu'effectivement, même si beaucoup de gens sont morts en France, on est à près de 100 000, il n'empêche que dans l'immense majorité des cas, on peut traverser le Covid sans terminer en réanimation.
Pascal, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les médecins vous disent qu'ils voient arriver dans leur service, à cause du variant anglais, des patients plus jeunes. C'est aussi ça qui les inquiète. C'est aussi une donnée que le gouvernement doit prendre en compte, parce qu'il ne peut pas prendre le risque non plus de voir une population plus jeune touchée par un virus dont on disait qu'il était pour l'instant réservé, entre guillemets, à des personnes plus âgées et plus fragiles.
Marine est avec nous. Bonjour Marine, qui est étudiante.
Bonjour.
D'abord, vous êtes étudiante en droit.
Oui, c'est bien ça.
Quand je dis d'abord, c'est, je voulais parler de votre saison. J'imagine que vous êtes en distanciel et que la vie est d'étudiante est difficile pour vous.
Distanciel à 100% depuis le mois d'octobre. Mais au final, on s'habitue quand même un petit peu. Et de toute façon, on est obligé de fonctionner comme ça. Donc, on n'a pas le choix.
Bon, vous imaginez être en plus confinée le week-end, Marine ?
Bah, ça ne change pas forcément grand-chose à ma vie d'étudiante, étant donné que la semaine, j'ai des cours. Que le week-end, je ne sors pas forcément parce que j'ai énormément de travail personnel à fournir. Mais moi, ce qui me dérange surtout, c'est la façon dont, en fait, cette crise sanitaire est traitée par le gouvernement, par les annonces aussi qui sont faites dans les médias, parce que je trouve que le climat est relativement anxiogène, parce qu'on ne sait pas si ça sera un confinement total.
Relativement, si vous dites
j'ai envie de
dire. Non, je m'amuse, vous allez dire relativement. Donc, c'est au-delà de cela, j'ai le sentiment.
Bah, oui, parce que les médias disent que ça sera peut-être un confinement total, peut-être un confinement uniquement le week-end, donc on ne peut pas non plus s'organiser, on a du mal à se projeter. Et on a vraiment l'impression que le gouvernement ne sait pas où est-ce qu'il va. Et c'est quand même assez critique parce qu'il y a 300 morts par jour, plus de 300 000 cas positifs. Ça fait quand même.
Qu'est-ce que vous appelez plus de 300 000 cas positifs ? 30 000
300 morts par jour et 30 000 cas, pardon. 30 000.
La courbe d'ailleurs des décès baisse légèrement depuis plusieurs jours. Ce qui est plutôt d'ailleurs logique, puisque les personnes qui ont été très âgées et vaccinées meurent moins, et notamment en EHPAD. Donc la baisse des morts, et la courbe des décès est en baisse.
Oui, mais ça n'empêchera pas, par exemple, des personnes de subir le Covid long, qui laisse des séquelles, et qui est une pathologie qui est quand même dramatique, et sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Il y a des gens qui ont des séquelles neurologiques, des problèmes aux poumons. Et les personnes âgées ne sont pas les seules touchées. Il y a aussi les enfants qui vont à l'école, il y a les étudiants qui vont à la faculté qui ont peur d'attraper le coronavirus parce qu'on ne retourne pas forcément à la faculté pour assister à nos cours magistraux, mais par contre, on peut nous demander de venir faire des examens en présentiel. Donc, on ne comprend pas non plus pourquoi faire un cours magistral serait dangereux, mais venir faire un examen ne le serait pas. Donc, il y a des mesures qui semblent quand même assez contradictoires. Et en tant qu'étudiante, et j'entends des choses autour de moi aussi, parce que je suis profondément investie dans la vie associative, et les étudiants sont vraiment stressés parce que pour certains, le week-end, c'était un petit peu leur bol d'air frais. C'est ce qui leur permettait vraiment de sortir, de prendre du temps pour eux, pour aller se balader et puis rompre la routine de la semaine, en fait. Et quand je vous dis ça, ça ne veut pas forcément dire que les gens autour de moi vont faire la fête, vont se réunir dans des appartements. Sortir, c'est juste pouvoir aller faire un tour, des fois dans un bois, aller faire un footing. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les salles de sport sont fermées, les piscines sont fermées. Donc le week-end, c'est quand même aussi quelque chose d'important pour les étudiants.
Merci Marine, on va laisser passer une première page de pause dans cette émission. Et Benjamin Sportouche va nous renseigner si confinement il y a, combien de temps il durerait, s'il a des indications ou pas. Bon teasing, non ?
Oui, c'est du teasing, mais après je vous dirai ce que je peux.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les régions de l'Île-de-France et des Hauts-de-France seront-elles reconfinées? Et si oui, pour le week-end, toute la semaine, le Premier ministre Jean Castex doit annoncer à 19h de nouvelles restrictions pour ses 18 millions d'habitants. L'épidémie va taper très dur jusqu'à la mi-avril, a confié Emmanuel Macron à des élus. Le maire de Poissy, Carl Olive, a reçu hier le chef de l'État. Il était l'invité de RTL ce matin. Quelles pistes ont été évoquées?
Ça peut aussi vouloir dire interdire les déplacements interrégions et parfois interdépartements. Ça sera peut-être pas le cas dans les prochains jours. En tout cas, ça fait partie de la petite chanson que les élus ont pu lui faire remonter. Monsieur Calvi, vous ne pourrez pas aller en Normandie ce week-end parce que vraisemblablement, ce sera interdit.
Alors, reconfinons ou pas? Eh bien, confiner ces deux régions, lance François sur nos réseaux sociaux, mais les autres, laissez-les vivre. Marre d'être enfermés, s'énerve Graine Fémo. Déjà que le couvre-feu à 18h, il ne reste que le week-end pour faire les courses. Ces décisions sont prises par des gens qui sont déconnectés de la réalité des familles. Pour Patrick, c'est bon, on a donné, vous voulez qu'on devienne tous dépressifs dans ce pays? Et c'est quoi la suite si un confinement ne fonctionne pas? Demande Jean-Luc. Dormir sur son lieu de travail, des sorties de 12h à 14h. Et pour Véro, on ne sert qu'à travailler dans ce pays et être confiné le week-end. Apprenons à vivre avec ce virus.
Benjamin Sportouche, le chef du service politique, est avec nous. Benjamin va écouter Christophe, qui est kiné, qui habite dans le Nord. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Pour ou contre le confinement et vous êtes peut-être concerné directement.
Ben, moi, je suis kinésithérapeute et je suis du Nord, donc notre région va être confinée. Mmh. Bon, moi, je suis depuis le début pas pour le confinement, mais là, malheureusement, à partir du moment où nos amis du Pas-de-Calais le sont, on va l'être vu qu'on a les mêmes taux. Et si ça permet de faire une plus grande vaccination, mais c'est vrai que depuis le début, ou on vous isole comme si c'était la peste, en fait, c'est le vaccin ou l'isolement. Donc, on ne se croirait pas au 21e siècle. Il n'y a aucun traitement, il n'y a rien, alors que des traitements existent. C'est on vous isole. Ou c'est le vaccin. Donc on est parti pour cette logique. Maintenant, on n'arrivera plus à aller en arrière. Malheureusement, je suis un peu blasé, résilié. Mais c'est...
Bah, des traitements existent, c'est ça qui est contesté, en tout cas. Je ne sais pas si c'est contestable, mais c'est contesté.
Il y a au moins des petits traitements. Tout ce qui remonte du terrain, c'est qu'on peut au moins donner de la vitamine D, qu'on peut donner du zinc. À certains endroits, le traitement Raoult a quand même un peu fonctionné. Il y a d'autres traitements dont on parle, mais après, on peut mettre de l'oxygène chez soi. Moi, j'ai des amis qui l'ont eu. Vous prenez un saturomètre et au lieu d'arriver à l'hôpital, quand vous êtes tout bleu, on vous met de l'oxygène chez vous. Enfin, il y avait moyen. C'est la première fois qu'on a une épidémie où tout le secteur de ville est complètement oublié. On n'a pas fait travailler les infirmières, pas les médecins. C'était où touche chez vous, c'est la peste du Moyen-Âge, où on attend le vaccin. Et je pense qu'on aurait pu limiter la casse. Regardez les médecins de Paris qui ont dit qu'on aurait pu rouvrir. On nous dit qu'on ne veut pas ouvrir des nouveaux hôpitaux parce que c'est trop cher. Pourquoi pas utiliser ceux qui ont été désaffectés il y a peu de temps? Il y a deux médecins de Paris urgentistes qui l'ont dit. Je ne sais plus si c'est le Val-de-Grâce, je ne sais pas bien les noms, mais des endroits qui ont été fermés depuis peu, donc qui sont équipés comme des hôpitaux.
Et ben, non, mais c'est vrai que le Val-de-Grâce qui est fermé, ça c'est un bon sujet, c'est souvent
Ben voilà, et c'est des gens de Paris qui le disent, des gens du terrain. Donc quand vous feriez ça, monsieur Pro, et ben, il y aurait moins d'encombrement, vu qu'on nous dit que c'est le principal sujet, c'est l'encombrement. C'est même pas le nombre des morts quand on regarde. En plus, on a déjà parlé ensemble, ce sont des personnes âgées qui meurent un peu plus vite, pour la, 75% des cas. Donc on arrête de nous faire croire que c'est la lèpre, le choléra ou la peste bucolique. Mais on n'a pas soigné. Donc maintenant, notre seule technique, c'est on vous planque dans un coin comme au Moyen-Âge.
Non, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, tous les jours à ce micro, je rappelle que nous avons 1000 lits de réanimation, on va peut-être passer à 1100, 1200, 1300, pour 12 millions d'habitants. Et on s'étonne qu'on soit en surchauffe. Ce qui est fascinant dans cette séquence, c'est que si on avait 2000 lits de réanimation, nous serions sans doute à l'abri de ce qui nous attend ce soir. C'est ça qui est incroyable. Incroyable.
Si vous rouvrez ce que vous dites, le Val-de-Grâce, et dans chaque région, il y a des présidents de région qui ont dit on a un bâtiment qui était dédié à ça, on pourrait l'ouvrir. Ça existe, des maternités qui viennent de fermer des hôpitaux. Vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de construire un hôpital comme les Chinois en 10 jours. Et vous désengorgez. Et du coup, la crise...
Ça n'a pas été fait, en tout cas.
Je vous rappelle juste qu'il y a un problème de personnel soignant.
Il faudra y penser pour la prochaine épidémie. Hein, parce qu'on en a une qui arrivera dans 2 ans. Il ne faut pas rêver.
Pour un lit, il faut du personnel soignant.
Il faut du personnel soignant,
c'est
mais...
insuffisant.
J'entends bien, mais convenez que si on a 2000 lits, je le répète, on peut peut-être faire venir des soignants de la France entière qui sont dans des endroits où la tension est moins forte. Il me semble qu'il peut y avoir des solutions avec les cliniques privées aussi depuis un an et que ces solutions n'ont pas été tentées. Mais j'annonçais tout à l'heure sur le confinement, la durée du confinement. Si confinement il y a, vous savez des choses ?
Non, là, honnêtement, je peux rien vous dire, là, Pascal. Je pense que ça a dû être arbitré, peut-être, à l'heure où nous parlons. Mais sur la durée, je pense que les choses ne sont pas définitivement actées. Peut-être ira-t-on d'un échéancier. Est-ce que ce sera une semaine puis, ou deux semaines tout de suite, sur des décisions après qui pourraient être renouvelables ? En tous les cas, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Ça n'est pas venu jusqu'à moi. Ce que je sais, ce que je peux vous redire, c'est qu'Emmanuel Macron, en effet, ne se résigne pas à reconfiner. C'est un pari qu'il a pris, oui, et c'est un pari politique. Ce matin, un conseiller me disait du gouvernement, oui, il fait de la politique. Il y a le sanitaire, mais il fait de la politique. C'est compliqué pour le président de la République de revenir sur la décision qu'il a pu prendre fin janvier. Il était convaincu que c'était la bonne, qu'il pouvait enjamber une reprise de l'épidémie, même si les épidémiologistes lui disaient que le mois de mars allait être très risqué. Professeur Fontanet, au grand jury notamment, l'avait dit, au mois de mars, il y aurait une flambée. Eh bien, elle se présente à lui, et c'est vrai qu'il espérait. Il est aussi comme ça Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il est nourri par l'optimisme et il pense toujours que quelque part c'est aussi de la méthode Coué, qu'en pensant que les choses vont aller mieux, elles vont aller mieux. Et bien c'est compliqué dans la réalité.
Bon, ce qui est clair, c'est que le confinement national est écarté.
Oui,
faut le dire.
Et la fermeture des écoles a priori aussi, vous savez que ça c'est une ligne rouge que le président de la République a posée depuis un certain temps.
Sauf que l'épidémie recule lorsque il y a des vacances scolaires. Donc on s'aperçoit que lorsque les enfants ne sont pas à l'école, l'épidémie recule. C'est pour ça que c'est toujours des mesures.
C'est pour ça que certains disent qu'on aurait dû confiner au moment des vacances scolaires ou prolonger les vacances scolaires.
Bon, 13h18, je salue Damien Béchiot qui doit
vous
écouter avec beaucoup d'intérêt puisque c'est un homme de l'Île-de-France. Donc comme tous nos auditeurs d'Île-de-France qui nous écoutent en ce moment. Est-ce qu'ils seront encore la semaine prochaine en train de nous écouter en voiture, par exemple? Ce n'est pas sûr.
Ils peuvent nous écouter à la maison.
Peut-être nous écouteront-ils effectivement chez eux. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jean-Christophe est directeur d'une école de danse dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, et bonjour.
Merci
Pascal
d'être
Pro.
Avec nous. Votre sentiment?
Bonjour Pascal Pro.
Bonjour.
Oui. Moi, ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est que ce qui est étonnant, mais ça a déjà été dit par les autres auditeurs, c'est que on est dans les mêmes réactions depuis un an alors qu'on connaît la maladie maintenant. Pourquoi les gens ont peut-être moins peur du virus? C'est parce que précisément on le connaît. C'est-à-dire qu'on sait vers qui il s'attaque, on sait quels sont les cas potentiellement qui vont développer des cas graves et encore une fois, attraper la Covid ne veut pas dire en mourir. Il y a une grande nuance entre les deux. Et on a l'impression qu'on nous met dans un climat anxiogène par rapport à ça, qui fait que on assimile les deux dans l'état d'esprit. Et le deuxième élément, c'est que, historiquement et militairement, une stratégie défensive n'a jamais fonctionné. Sauf une fois dans la guerre de 100 ans. Et que ce qui fonctionne, c'est une stratégie offensive. Et que je ne comprends pas pourquoi on ne vaccine pas beaucoup plus que ça en France, quand je vois l'Angleterre aujourd'hui, combien le nombre de cas chute au fur et à mesure qu'ils vaccinent d'une façon forte, et pourquoi on n'achète pas d'autres vaccins, tels que le vaccin russe, par exemple.
Ça, c'est une bonne question, le vaccin russe, mais a priori, on va pouvoir il va être validé dans quelques jours.
Oui, mais on fait affaire, comme vous disiez tout à l'heure, pour les millions plus, à une bureaucratie telle en France qu'on ne marche pas du tout sur le rythme.
Et puis il y a des choix idéologiques et politiques.
Exactement.
Les vaccins qui sortent de l'Union européenne, et on l'a vu avec AstraZeneca, ça a été validé un mois plus tard. Et ce mois-là, ben, on le paye cher aujourd'hui.
Et exactement. Et que ben, si on a dit qu'on était en guerre, oui, on est dans un tempo de guerre dans ces cas-là. Et à ce moment-là, il faut s'adapter au tempo du virus. Mmh. Et s'adapter au tempo du virus, c'est être beaucoup plus réactif que cela. Parce que ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, finalement, c'est qu'on est en train de gâcher une jeunesse qui est l'avenir du pays. Nous, dans le cadre de l'éducation artistique, parce qu'elle n'existe pas dans l'éducation nationale, elle se fait en dehors de l'éducation nationale, finalement, eh bien, ça fait 2 années pédagogiques qui ont été mises à mal. 2 années où on ne sait pas ce que les enfants en feront plus tard et ce que feront l'année prochaine ces enfants, parce que beaucoup sont découragés par rapport à toutes ces interruptions qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, les conséquences seront beaucoup plus longues dans la durée que simplement ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc un confinement de plus encore aujourd'hui sera encore une étape lourde à gérer, à devoir supporter, et qui aura des conséquences dans le temps.
Il y a des habitudes qui sont prises avec des gosses qui ne font plus rien à la maison, qui ne font plus de sport, qui ont pris du poids, des maladies cardiovasculaires qui peuvent arriver, bien sûr, puisque les gens ne peuvent plus faire du sport. Alors j'imagine, Benjamin Sportouche, que tous ces arguments sont mis sur la table et qu'ils sont et ils seront tranchés tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et vous le savez, c'est pour ça aussi que la République dit que le confinement, ça doit être la solution ultime. Mmh. Et que depuis des semaines, et ça ne lui a pas été reproché, d'ailleurs il a plutôt été salué pour ça le 29 janvier dernier, de ne pas reconfiner maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir tenir cette ligne-là face aux chiffres, face à la pression des
médecins?
C'est quoi
la pression des médecins? Parce que comment expliquer également cette pression de certains qui paraît disproportionnée?
C'est le personnel soignant qu'il va voir lui-même hier à Poissy et qui lui dit « Écoutez, on n'arrive plus ». C'est aussi ces soignants, on évalue à 10% les nombres de soignants qui sont partis de ces métiers-là depuis l'année dernière, Pascal. Et donc ça veut dire qu'il y a moins de gens pour venir s'occuper des soignants, donc des personnels, des gens malades. Et donc on a un président de la République qui lui-même est allé au contact hier, qui lui-même a rendu public ces conversations.
D'ailleurs,
on les a entendues sur les télévisions et chez nous aussi, avec ces soignants qui disaient on a du mal, on tient plus, on a l'impression que la vague est aussi forte que celle
mais
que nous avons
traversée. Mais c'est pas dans tous les services pareil. c'est assez hétérogène. Il y a des services, par exemple, j'étais avec Martin Blachier, qui est souvent venu à ce micro, qui a fait le tour des réanimations hier, me disait-il, qui a appelé ses amis réanimateurs, et il n'a pu que constater que c'est hétérogène. Il y a certains qui sont effectivement...
Mais d'ailleurs, oui, vous avez... Et d'ailleurs, le conseil scientifique, Pascal, est beaucoup plus... n'est pas alarmiste sans avoir des arguments. Le conseil scientifique aujourd'hui n'est pas pour un reconfinement national. Le conseil scientifique qui conseille le président de la République et qui l'a rencontré, ils se sont vus mardi à l'Élysée, eh bien, est pour un confinement ciblé. Par exemple, il ne veut pas qu'on ferme les écoles. Donc, on a aussi un discernement de la part des scientifiques aujourd'hui qui se disent voilà aussi les risques sociaux, psychosociaux qu'il peut y avoir. Et donc, quand ils disent au président de la République, attention, il va peut-être falloir faire une mesure ponctuelle ciblés régionalement, c'est qu'ils se rendent compte aussi que, eh bien, médicalement, il va falloir assurer derrière et que tenir, il peut y avoir un discours politique qui est de dire, ben, de la part d'Emmanuel Macron, écoutez, on confine, il y a un risque sanitaire, il faut l'assumer. Mais après, il faut l'assumer politiquement aussi. Et dans les urnes.
Et puis, il faut que ce confinement soit respecté. Parce que vous imaginez, dans certains départements, s'il n'est pas respecté et que dans d'autres, on oblige les gens à le respecter, vous imaginez là aussi les conflits qui pourraient naître de cela. Pierre-Marie est là. Bonjour Pierre-Marie, qui est
bonjour,
infirmier
Pascal.
À domicile et qui est dans le Nord. Bonjour Pierre-Marie.
Oui.
Et merci d'être avec nous. Votre sentiment, que faut-il faire ?
Ben, je pense que le confinement est nécessaire. Le week-end au moins, voire toute la semaine. Et puis, en espérant que ça dure 3-4 semaines.
D'accord. Bah, écoutez, comme ça, ça a le mérite d'être clair. Pierre-Marie, vous êtes un enfermiste, mais vous avez le droit, hein, vous avez le droit de vouloir qu'on soit... Mais alors, ce que je comprends
tout
toujours...
Tout en maintenant la vaccination.
Oui, bien sûr. Parce que le premier confinement, bon, manifestement... Alors, en Allemagne, par exemple, le pays est confiné, ça ne change pas grand-chose. Là où c'est confiné, par exemple, je m'aperçois que c'est pas la solution... qui paraît, c'est pas la panacée.
Oui, mais enfin, sauf que là, maintenant, les taux sont trop hauts. Vous voyez, dans notre département, on est à plus, le taux d'incidence à plus de 400. Et puis à Paris, j'en parle pas.
Oui, mais donc, le taux d'incidence, d'ailleurs, et je vais demander à Benjamin, parce que Benjamin, il doit partir, mais ça va être ma dernière question. La politique alternative, c'est quoi ? C'est hôpital de campagne, hôpital militaire, clinique privée, etc.
Bon, ouais, mais ça, on a. Le personnel aussi.
Oui, mais on a le sentiment qu'on n'est pas allé au bout de ça. On a le sentiment qu'on pourrait faire mieux.
Je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce que ouvrir ne serait-ce que 10 lits, sachant qu'il faut deux infirmières pour trois malades en réa. 24 heures sur 24, ça fait 6 à 8 malades infirmières par jour. Multiplié par le nombre de malades et multiplié par le nombre de jours, plus les médecins réanimateurs, plus les aides-soignantes, plus les auxiliaires de vie. Enfin, vous voyez, ça devient compliqué.
Ce qui est clair, Pascal, tout de même, c'est que vous disiez
sur le
confinement.
Vous le direz après la pub. Vous le direz après la pause.
D'accord.
Vous allez rester encore, ça vous apprendra. Quelques secondes. Benjamin Sportouche. Restez là, Benjamin, chef du service politique. Il sait des choses. Il ne veut pas nous les dire parce qu'il est prudent.
Non,
mais je sens qu'il va nous dire après la pause
ça,
quelque chose. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Monsieur Tessier, on parlera peut-être d'autres sujets.
Exactement. Une Française condamnée pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari depuis 10 ans. Décision de la Cour de cassation en septembre 2020, mais révélée seulement hier devant la justice. Cette femme avait pourtant évoqué une santé dégradée, une énergie immense consacrée à leur fille en situation de handicap. Elle vient de faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ces décisions vous choquent-elles ? Eh bien, c'est ridicule pour Christine sur nos réseaux sociaux. Mon épouse est fatiguée, préfère plaisanter José, hein, puis-je porter plainte ? On n'est plus au Moyen-Âge, bon sang, s'énerve Mumu. Comment peut-on rendre ce type de décision ? Demande Bernard. Du grand n'importe quoi pour Fatia. Partagez-vous ces avis, 32-10. Et puis la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, a admis hier matin que son syndicat organisait des réunions interdites aux Blancs. Des propos qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Des réunions organisées pour, je cite, permettre aux personnes qui sont touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Qu'en pensez-vous ? 32-10, 3-2-1-0 dès maintenant.
Ce que je trouve extraordinaire dans cette affaire commentaires que j'entends depuis ce matin, cette femme condamnée pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari, c'est donc que le mari est allé porter plainte, par définition. Donc que cette plainte a été acceptée par un policier et qu'elle a été instruite par un juge. Personne ne s'est arrêté. Donc tu te dis, effectivement, c'est quand même une affaire tout à fait étonnante.
Et qui vous fera sûrement réagir.
Bien évidemment. Benjamin Sportouche, Alfred Hitchcock, il est dépassé par Emmanuel Macron. Parce que cette façon d'entretenir le suspense, ce supplice chinois, c'est-à-dire que depuis 3 jours, 4 jours, on est aujourd'hui jeudi, depuis lundi, depuis le début de la semaine, tous les médias, que va-t-il se passer? Confinement, reconfinement, etc. Enfin, c'est insupportable quand même.
C'est vrai que ça peut questionner, ça, Pascal. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut le temps de la concertation avec les élus, qu'il faut le temps d'avoir des nouvelles données, qu'on ne voulait pas faire les choses dans la précipitation. C'est vrai qu'on attendait des décisions en début de semaine. Eh bien, finalement, elles viennent plus tard. Et je peux vous dire que oui, il y a des conseillers de ministres qui s'interrogent sur ce timing, ce tempo qui est à retardement, j'allais dire, entre le Conseil de défense et des décisions qui sont annoncées 48 heures plus tard. Et avec des propos qui font monter un peu la tension dans les propres mots de l'exécutif d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, mais également de Jean Castex mardi soir. Oui, donc il y a une interrogation. Est-ce que c'est la bonne communication de crise? Est-ce que la bonne communication de crise, c'est d'instaurer une sorte de rendez-vous totem, comme la conférence de presse du jeudi soir, c'est vrai, à laquelle les Français sont habitués, ou alors de s'adapter aussi aux impatiences et aux décisions qui sont prises pour les donner immédiatement, voire d'accélérer le rythme.
Mais c'est un film. Par exemple, là, il est 13h33 et on nous dit fin de la réunion Macron-Castex.
Voilà.
Vous voyez, on nous a annoncé le déjeuner. Ouais. C'est un feuilleton. Tous les jours, il y a quelque chose.
Oui, mais peut-être qu'aussi, il y a une très grande hésitation. Très grande hésitation, c'est vrai, que Emmanuel Macron ne veut pas.
Mais elle aurait été la même hier, l'hésitation.
Oui, mais peut-être qu'elle est très grande. C'est aussi une forme de fébrilité. Emmanuel Macron, une nouvelle fois, joue gros. Parce que il y a quelques semaines, il pensait tenir sa ligne, il ne voulait pas reconfiner.
Nous avons
aujourd'hui
compris.
Eh bien, il y sera peut-être contraint. On verra ça. Tout est en train de se jouer, ou tout est déjà joué. On le saura dans quelques heures.
Merci Benjamin Sportouche.
Merci à vous.
Vous nous avez aidé à décrypter
autant que je peux.
Hélas, vous ne nous avez pas dit ce qui allait se passer ce soir, mais vous ne le savez pas.
Voilà,
Pierre-Marie, donc on va conclure.
Journée.
Merci Benjamin. Pierre-Marie, c'est à 19h. Et d'ailleurs, c'est à 19h et c'est décalé parce qu'on attend les résultats de l'Agence
européenne du médicament
sur AstraZeneca. Pierre-Marie, vous vouliez conclure. Peut-être vous êtes infirmier à domicile et vous êtes pour un confinement rude.
Oui, Pascal. Je voudrais conclure sur le fait qu'il faut faire, bien sûr, très attention à les gestes barrières. Et on avait dit que finalement, avec les masques et puis les gels et puis tout ça, ça irait. Et vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc,
mais rien ne fonctionne. Si je voulais vous apporter la contradiction, je vous dirais que rien ne fonctionne. J'ai dit l'Allemagne est confinée, ça ne marche pas.
Oui.
Bon, rien ne fonctionne.
Il reste plus qu'une solution, c'est mettre le paquet sur la vaccination, qui malheureusement est partie très doucement, et en espérant d'avoir des doses pour le mois d'avril et pour qu'on puisse vacciner avec un large public et enfin sortir de cette crise. Quoi.
Ben merci Pierre-Marie, en tout cas merci de votre témoignage. On poursuit avec Gilles. Il y a un peu de résignation d'ailleurs. Bonjour,
bonjour
Gilles.
Bonjour, courage. Un jour on verra le fin, il paraît qu'on nous libérera en 2050. je trouve, si je fais le bilan des opérations, le confinement, en gros, c'est l'ultime mesure d'impuissance qui précède le prochain, qui lui-même précédera le suivant. En gros, il y a plein de gens qui sont censés protéger nos fesses, qui visiblement protègent mieux les leurs que les nôtres. Je parle de la haute fonction publique qui a brillé par sa nullité.
Écoutez, les mots sont forts, mais c'est...
J'ai vu un reportage sur Israël hier. Alors, voilà, eux, ils ont des dirigeants qui défendent leurs citoyens. Nous, on a plein de gens qu'on paye alors, dans des commissions Théodule, qui pondent des rapports que personne ne lit, dont la valeur ajoutée est parfaitement discutable, qui sont à l'abri de tout avatar. Place chauffée, ils vont dans le privé pantoufler, ils reviennent, ils ont leur place qui est gardée au chaud, et quand il y a la moindre crise, il n'y a plus personne au pouvoir. En gros, il n'y a plus personne. Alors moi, quand même, ça m'interroge. Je me dis quand même, tous ces gens qui sont payés, pourquoi? D'abord, en fait, ils sont payés pourquoi?
Et vous savez pourquoi ils sont payés, Gilles? C'est la haute fonction publique. Mais
moi je suis un citoyen comme la plupart des gens, comme tous les Français. Je veux bien qu'il y ait des hauts fonctionnaires, que ça soit nécessaire. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, au minimum une fois par an, on passe à la toise pour dire qui sert à quelque chose et qui ne sert à rien. Parce que s'il n'y a pas de valeur ajoutée, pourquoi les payer?
C'est pas exactement notre débat du jour, mais c'est un pas de côté que
non,
vous faites.
Non, mais c'est la conséquence. C'est la conséquence, si vous voulez, la conséquence d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous regardez l'ensemble des décisions qui ont été prises, elles ont été prises à l'aune de « Oula, attention, que je ne prenne pas moi de risques juridiques qui soient susceptibles de nuire à ma carrière. Bah, » je vais vous dire, si Churchill avait été un arc, on serait allemand aujourd'hui.
Bah écoutez, en tout cas, c'est difficile de ne pas vous donner raison sur certaines choses, et notamment sur la manière dont l'administration a mené cette année, puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, la principale étant de ne pas pouvoir ou de ne pas prévoir l'augmentation de lits d'accueil dans les hôpitaux. Là-dessus, on peut tous se rejoindre que 1000 lits pour 12 millions de personnes, faut pas être étonné que ça craque. 13h37, une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Vous êtes très nombreux à nous appeler à quelques heures de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Nous sommes avec Alexandre, qui est infirmier en réanimation, précisément à Metz. Bonjour.
Bonjour Pascal. Écoutez, je vous appelle. Ben, je suis bien déprimé avec tout ce qu'on entend tout le temps. Et je me pose vraiment la question parce que, en fait, je ne travaille pas en France. Je travaille de côté de la frontière, au Luxembourg, en Belgique, où j'ai travaillé depuis 20 ans. Et j'ai entendu ce matin qu'en réanimation en France, c'était un infirmier, un aide-soignant pour 2 malades. Et nous, de l'autre côté de la frontière, c'est un infirmier pour 3 malades à 4 malades. Donc, on nous dit qu'en France, c'est un problème de personnel, mais je pense qu'il faudrait qu'ils s'adaptent. Parce que, honnêtement, les malades sont les mêmes, hein, d'un pays à l'autre, hein, je pense, en réanimation.
C'est intéressant ce que vous dites, même si, souvent, je le dis, je peux pas vérifier ce que vous dites. Hein, je sais pas
si. Mais moi, je vous le dis parce que j'y travaille. Et je sors de nuit, je viens de me lever. Cette nuit, j'avais 4 malades à ma charge.
Et en France, c'est simplement 2.
Eh ben, écoutez, c'est ce que j'ai entendu ce matin sur votre radio, où c'était un aide-soignant et un infirmier pour 2 malades. Donc je me dis, si on veut récupérer du personnel, il est peut-être possible de s'adapter, peut-être, hein, je ne sais pas. Et puis voilà, je me dis, il y a quand même un problème, quoi. Il y a quand même un problème. Parce que le seul gros problème, c'est l'hôpital, et j'ai l'impression que l'hôpital ne veut pas s'adapter à cette crise et veut continuer à fonctionner toujours de la même façon alors qu'on est soi-disant en guerre. Donc, je me pose réellement la question.
Mais vous êtes quand même en réanimation, donc vous voyez les patients
oui,
Covid.
Je suis en réanimation. Bah, bon. Je suis en réanimation. On a des patients qui sont intubés, trachéotomisés.
Est-ce que vous diriez d'ailleurs qu'ils sont plus jeunes qu'ils ne l'étaient lors de la première vague ?
Pas plus que ça, mais je vous dis maintenant, et la différence pour moi également, c'est question de mentalité. J'ai l'impression que de l'autre côté de la frontière, les gens d'un certain âge ont plus pris conscience du risque et voilà pourquoi il y a peut-être un petit peu moins de cas aussi.
Et vous êtes pour ou contre un confinement à venir ?
Bah, je suis contre. Habitant en Moselle, vous savez, il y a 3 semaines de ça, on avait le maire, monsieur Grosdidier, et le président de la région, monsieur Rottner, qui était pour confiner strictement la région. On s'est rendu compte que 3 semaines après, ben, ça a baissé. Donc, on ne sait même pas comment ça a baissé.
Mais c'est ça qui est fou, l'histoire de la Moselle.
C'est terrible. Donc, je vais vous dire honnêtement, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est avec toute cette campagne de publicité pour nous confiner, c'est fermer la frontière avec l'Allemagne. Après, ils sont étonnés. Mais franchement, je vous assure, je suis dépité. Je suis dépité d'entendre tout ce que j'entends continuellement. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'on s'en sorte. Et je me pose encore la question comme je vous avais posé. Vous allez me redire, oui, mais monsieur Lamine Garbi m'a bien dit que les cliniques travaillaient.
C'est ce qu'il dit, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller contre lui, puisque c'est lui qui gère ça. Si lui-même ne dit que ça se passe bien, je ne peux pas, à sa place, dire que ça se passe mal.
J'ai vraiment du mal à le croire. Sachant, quand je vois tous les médecins qu'on a à la télé, continuellement, que vous avez sur vos plateaux, qui ont un orgueil surdimensionné, j'ai l'impression... vous avez pu vous en rendre compte de ce que c'est, en fait. J'ai l'impression, en les côtoyant jour après jour, j'ai réellement du mal à croire que ça fonctionne comme ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut tirer la couverture vers soi, et c'est à moi qui ai raison et pas d'autres.
C'est un milieu qui paraît dur, que le milieu des soignants, et surtout, je vais vous dire les choses, c'est vrai aussi parfois chez les militaires, mais ça me paraît très hiérarchisé et une forme parfois de mépris pour celui qui est au sommet, pour celui qui n'y est pas. Et je suis assez frappé de ça. Ce qui n'est pas vrai de tous les milieux, par exemple.
Et ce qui n'est pas vrai de tous les pays.
Oui, mais il y a une forme de...
J'ai fait mon diplôme en France. J'ai jamais travaillé en France. Je suis parti tout de suite en Belgique parce que ma femme est franco-belge. Et la mentalité est complètement différente.
Vous trouvez que les infirmiers, par exemple, sont méprisés en France et pourquoi pas maltraités par...
Écoutez-moi, les souvenirs que j'en ai, et c'était une hiérarchie qui était très marquée, quoi. Alors, quand j'entends tous ces médecins à la télé qui nous disent « oui, on travaille en équipe et tout », j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que ce que j'ai vécu n'était pas vraiment ça. Peut-être que c'était juste l'endroit où j'étais, hein, je ne dis pas.
Mais je suis assez frappé de cette hiérarchie qui existe et de frontières invisibles qui séparent les uns et les autres dans ce métier.
Tout à fait.
Merci.
Voilà. Donc, je suis contre le confinement parce que je n'ai pas compris pourquoi en Moselle, sans confinement, c'était passé.
La Moselle, c'est fascinant comme exemple. Hein. C'est tout à fait... Vous avez tout dit, d'ailleurs. Il y a 3 semaines, il y avait un taux d'incidence très haut. Le maire voulait... reconfiné, à l'arrivée rien n'a été fait, ça a baissé. On va poursuivre la discussion, pas que sur le confinement, il y a également le Vatican, puisque hier l'Église catholique a rappelé que c'est un péché selon elle l'homosexualité. Donc ça va être intéressant là encore de revenir sur ce sujet qui vous a beaucoup fait réagir hier.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Un dernier témoignage sur le confinement avec Jean-Philippe qui est kiné, qui habite la Seine-et-Marne. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Qui sera peut-être confiné, la Seine-et-Marne.
Sûrement, c'est ce qu'on dit. Maintenant, on va prendre dans l'ordre. Voilà, je me suis posé le santé, donc j'ai eu le Pfizer. Donc les 2 doses, et le dernier le 13 février. Ma femme a un cancer généralisé, donc elle a eu pareil. Et donc on voudrait partir mardi, après qu'elle voit son oncologue. Le problème, c'est que si on est confiné, est-ce qu'on pourra partir? Peut-être pas.
Vous voudriez partir où?
Vers la côte basque, vers la côte atlantique.
Si vous êtes confiné, vous ne pourrez pas partir.
Oui, mais monsieur, mais en fait, je crois qu'il y a eu une déclaration pour les personnes des EHPAD en disant que s'ils avaient le Pfizer, ils étaient vaccinés, ils pourraient avoir une vie sociale plus indépendante et plus, normale. Et moi, qui suis vacciné, je ne pourrais pas sortir du département, je ne pourrais pas sortir les choses.
Oui, c'est ça qui est très étrange.
Et donc,
on
va où dans ces cas-là? Je vais vous dire une chose. Hier, je me suis fait... je vais dire sodomiser. Donc, j'ai une coloscopie. D'accord? On m'a demandé on m'a demandé de faire le test générique avant. Je dis, mais attendez, mais est-ce que tout le monde à la clinique, ce matin, a fait un test générique? Ah bon, on ne peut pas vous répondre, mais c'est obligatoire. Alors, vous êtes vacciné, mais vous devez obligatoirement faire un test génétique, un test PCR pour faire les choses. Bon, on me l'a fait, ok, j'ai accepté, parce que sinon, il va falloir reprendre la mixture qui est dégueulasse. Je l'ai fait, mais sinon, on tombe sur la tête, quoi. On tombe sur la tête.
C'est une période particulière.
Et en plus, je vais vous dire, je pense que comme beaucoup de professionnels et comme beaucoup de personnes en France, on a le DMP, le dossier médical partagé. Et sur sa carte vitale. Théoriquement, la CPM doit théoriquement, quand on est vacciné, on est transmis à la CPM. Eh bien, ce n'est pas transmis sur le dossier médical partagé. Je l'ai vérifié. Ça sert à quoi, dossier médical partagé, si on n'est pas marqué qu'on est vacciné?
Non, mais ce que vous dites, évidemment, s'entend, Jean-Philippe.
Donc maintenant, si vous êtes un avocat, je me fais arrêter sur la route mardi matin parce que j'ai envie de partir. Tu vois, pour dire en disant qu'on est vacciné, qu'on peut faire les choses, moi je prends. Hein.
Bah, c'est-à-dire que vous, en plus, le cas que vous décrivez est particulier puisque votre épouse est malade.
Oui, non, mais je veux dire pas, c'est qu'on est tous vaccinés, donc pourquoi on va partir? En Israël, on peut faire les choses. En Angleterre, on peut faire les choses. Maintenant, aux US, on peut faire les choses. Dans certains pays, on peut faire les choses. Et nous, en France, on est vaccinés, on peut rien faire. Attends, et dans les EHPAD, je crois que Monsieur Véran Quicquic a dit qu'on pouvait faire les choses mieux. Enfin, les gens pouvaient commencer à partir, faire les choses.
Vous l'appelez comment, Monsieur Véran?
Quicquic.
Pourquoi Quicquic?
Ouais, parce que il dit quick, c'est toujours rapidement. C'est mon truc, hein, c'est
d'accord.
Pas grave. C'est
bon, mais merci Jean-Philippe. Vous êtes le dernier à parler du confinement. C'est vrai que, je le disais, il y a beaucoup de résignation. C'est ça qui me frappe dans les témoignages. Beaucoup de gens un peu désabusés. Et en tout cas, il n'y a pas le même, évidemment, enthousiasme pour le confinement qu'il pouvait y avoir il y a pile un an. On change de sujet.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, cette affaire d'homosexualité qui est un péché, je le disais hier, selon l'Église, bien évidemment, et selon le Vatican, et ça nous a surpris parce que le pape, nous semblait-il, était sur une position un peu différente, un peu plus conciliante. Nous sommes avec Pierre-Emmanuel. Bonjour, Pierre-Emmanuel.
Bonjour, Pascal.
Et on était avec une jeune femme hier qui s'appelle Marine, et on a terminé avec elle, et puis j'avais dit, Marine, revenez au micro, mais il se trouve que Marine, elle était occupée aujourd'hui. Donc, vous connaissez Marine, Pierre-Emmanuel, puisque c'est elle qui nous a mis... Voilà, c'est elle qui nous a mis en contact avec vous. Et vous êtes, j'imagine, sur la même longueur d'onde.
Oui, absolument. Alors, dans des termes qui varient légèrement, mais effectivement, sur le fond, c'est tout à fait cohérent. Bon, il y a deux choses que j'aimerais dire, de façon, et je pense m'exprimer au nom d'un certain nombre de catholiques. La première, elle est un petit peu péremptoire et pas très constructive. Et la deuxième, elle est bien plus fondatrice et beaucoup plus philosophique. La première chose, c'est que nous sommes dans un monde de liberté, n'est-ce pas, où la liberté est élevée au pinacle. Et je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus. Donc, à un moment donné, je pense que l'Église catholique elle-même est relativement libre de déterminer ce qui constitue son dogme. Bon, sans que des personnes qui, par ailleurs, sont parfaitement athées et ne foutent pas les pieds à la messe depuis des années, aient à en faire des grands titres et les choux gras et faire mine de s'étonner de ce que pour l'Église catholique, l'homosexualité soit un péché, si vous voulez. Et là-dessus, j'insiste, je parle de la pratique homosexuelle qui serait un péché selon l'Église catholique, parce que l'homosexualité, c'est un état de fait. Donc l'Église, elle ne condamne pas le pécheur, elle accueille toujours le pécheur tout en rejetant le péché. Donc je pense qu'il est fondamental de bien distinguer l'homosexualité, qui est cette inclination naturelle pour une attirance envers des personnes de même sexe, et puis le fait de céder à cette inclination-là. Ça, c'est la première chose. Donc à un moment donné...
Je peux rappeler simplement ce qu'est le péché selon l'Église catholique ?
Le péché, c'est ce qui n'est pas ordonné à la volonté de Dieu. Voilà,
Le péché dans le catéchisme, c'est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite.
Absolument.
Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. C'est ça la définition du péché. C'est toujours intéressant de précisément revenir sur une définition. Eh bien, considérer que l'homosexualité est un péché selon l'Église, comprenez que, je l'ai dit hier à Marine, le catholique que je suis peut être choqué.
Le catholique que vous êtes peut être choqué, ça, c'est une chose, très bien. En revanche...
Mais vous considérez par exemple que l'homosexualité est une faute contre la raison, la vérité, la conscience ?
Mais
qu'il
moi,
est un manquement à l'amour véritable envers Dieu ?
Je n'ai rien à considérer. Puisque
si, vous avez un avis, puisque vous êtes catholique, j'ai envie de dire, comme moi.
Bien sûr.
Donc vous considérez ça ?
Il se trouve que l'Église catholique, son magistère immuable...
Non mais vous, Pierre-Emmanuel, moi ce qui m'intéresse, c'est vous. Moi, par exemple, je donne mon avis. Vous considérez que l'homosexualité est un péché ?
Je le considère, absolument, oui. Précisément, je le considère précisément parce que j'essaye de faire preuve d'humilité, de comprendre un petit peu ce que...
C'est très courageux de le dire à l'antenne.
...2000 ans nous enseigne, et effectivement, cet enseignement-là, il s'appuie sur les textes sacrés. Donc, il me semble compliqué de revendiquer ce catholicisme, d'une part, et d'autre part, d'être dans une posture de refus forcené des enseignements de l'Église catholique elle-même. Bon, ça, c'est une première chose.
Très courageux de le dire d'abord de votre part, très courageux de l'assumer, mais c'est vrai que, d'abord, je suis surpris, pour tout vous dire, mais en revanche, je vous laisse continuer.
Bon, après, je comprends que cette position qui est un petit peu c'est vrai que c'est étonnant parce que vous, Pascal Proulx, vous évoquez très souvent le bon sens de manière assez générale. Et j'ai l'impression que dans le cas d'espèce, vous êtes un petit peu submergé, mais c'est tout à fait dans le temps, par plutôt l'affect, l'émotion, le fait que des personnes homosexuelles peuvent
vous dire. Je suis submergé par rien du tout. Mais quand vous me dites, quand je lis la définition du péché et que je vous demande si pour vous l'homosexualité répond à ce critère et que vous me dites oui, je suis surpris qu'un jeune homme de 33 ans, Pierre-Emmanuel, pense ça en 2021. Je peux pas vous dire autre chose.
Soyons très clairs, je ne suis pas en train de vous dire que, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a aucun catholique dans le monde qui balance les homosexuels du haut des immeubles.
Mais
c'est une assez grande différence avec un certain nombre de
personnes. Nous sommes d'accord. Et convenons que c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose, absolument. On peut s'en féliciter, c'est évident. Mais il faut quand même largement distinguer le péché du pécheur. Encore une fois, c'est absolument primordial. Dans ce que je dis, il n'y a aucune animosité envers
Écoutez, j'entends bien, mais vous voyez, moi, je ne saisis pas en quoi l'homosexualité est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite, et combien il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain. Franchement, je n'ai toujours pas compris. Mais je pense que vous pourriez sans doute me l'expliquer. Peut-être après la pause et le flash, dans une minute de Audrey. De Hortense Crépin qui sera là dans une seconde. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Nous poursuivrons ce débat passionnant sur l'homosexualité et le Vatican après le flash de Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les derniers arbitrages avant la conférence de presse du gouvernement. À 19h, Jean Castex et Olivier Véran doivent annoncer de nouvelles mesures et un possible reconfinement de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. 18 millions de Français seraient concernés. Reste à savoir quelle forme prendrait cette mise sous cloche. Confinement 7 jours sur 7 ou uniquement le week-end. Quel que soit le scénario retenu, il faut laisser des marges de respiration aux Parisien, indique Anne Hidalgo. Dans le même temps, l'Agence européenne du médicament doit rendre cet après-midi son avis concernant le vaccin d'AstraZeneca. Demain, l'OMS doit rendre sa décision. Elle appelle d'ici là à continuer la vaccination avec le produit de la firme britannique. Un jeune de 15 ans blessé dans un accident mardi soir à Blois et généré après un refus d'obtempérer est décédé. Annonce du parquet après cet accident. Des violences urbaines avaient éclaté dans la ville. L'Espagne adopte définitivement la légalisation de l'euthanasie. La loi doit entrer en vigueur en juin et vient d'être adoptée par une large majorité de députés. Les tensions s'accentuent entre la Russie et les États-Unis, et cela après les propos de Joe Biden dans une interview. Il a désigné le président Poutine comme un tueur en promettant qu'il paierait pour ses actes. C'est celui qui dit qu'il est, réplique Vladimir Poutine. Moscou rappelle par ailleurs son ambassadeur aux États-Unis pour des consultations. Et puis en football, Didier Deschamps s'apprête à dévoiler la liste des sélectionnés pour les prochains matchs de qualification pour le Mondial 2022. Les Bleus reçoivent l'Ukraine mercredi prochain avant de se rendre au Kazakhstan dans 10 jours, puis en Bosnie-Herzégovine le 31 mars. La météo cet après-midi, nuages et pluie au nord, de la neige sur le nord-est dans la soirée. Des averses vont s'étendre aux Alpes du Sud et à la Côte d'Azur. Les températures cet après-midi, 8 degrés à Lyon et Paris, 10 à Bordeaux et Biarritz, 11 à Brest. Les courses étaient à Caen, début d'après-midi, l'arrivée provisoire de 10, 7, 9 et 12. 14h02 sur RTL. Et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Proulx.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Proulx.
André va être là. Pierre-Emmanuel, qui est assez courageux d'ailleurs, hein, de considérer que l'homosexualité est un péché et qui est... s'aligne sur la position du Vatican. Pierre-Emmanuel, est-ce que vous m'autorisez à vous faire discuter avec André, par exemple, qui est enseignant et avocat à Strasbourg ? Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel ?
Allons-y, oui.
Allons-y. Alors André, vous avez écouté ce qu'a dit Pierre-Emmanuel et je voulais votre réaction et peut-être pouvez-vous entrer en débat avec lui.
Bah, pour moi, les choses sont beaucoup plus simples. L'homosexualité, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, tout simplement parce que je pense qu'un homme, il n'y a pas mieux qu'un homme pour connaître un autre homme, et idem pour une femme, c'est déjà une évidence. Deuxièmement, la notion de péché suppose au préalable qu'on soit croyant. Donc évidemment, moi qui suis protestant de naissance et athée de conviction, la notion de péché m'est totalement inconnue. mais totalement inconnu. Et troisièmement, j'ai perdu le...
Vous avez oublié le troisièmement. Mais
le troisièmement, l'arrivée tout de suite. Le troisièmement, je crois surtout que c'est dans la Bible, je crois. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu ne vois pas la poutre dans le tien ? Jeter l'opprobre sur les homosexuels entre adultes, que ce soit homme ou femme, peu importe. Quand on voit le rapport, le pré-rapport que M. Sauvé vient de publier il y a 3 semaines, M. Sauvé, on le rappelle, est l'ancien vice-président du Conseil d'État et président de la CIAS, c'est un homme absolument remarquable et brillant, qui a déjà enregistré à la CIAS près de 10 000 agressions sexuelles de religieux catholiques sur des enfants. Je crois vraiment qu'il ne faut pas reprocher à des adultes de préférer des adultes de même sexe, entre eux et entre adultes, quand on a au moins 10 000 membres du clergé depuis la fin de la guerre, ou les années 50, qui sont inscrits à la CIAS pour avoir agressé principalement des petits garçons et moins souvent des petites filles.
Bon, c'est pas exactement le sujet non plus. Il est polémique, ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de recentrer sur le rapport des religions, d'ailleurs, à l'homosexualité, parce que ce qui est vrai pour l'Église catholique est vrai pour d'autres religions, manifestement.
Oui, la religion juive ou musulmane leur éprouve également, tout à fait.
Ce qui est drôle, en revanche, dans ce que vous avez dit, l'homosexualité, c'est un choix de vie, vous avez dit.
Tout à fait.
Et les homosexuels, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, moi, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que mon orientation sexuelle s'est imposé à moi. J'avais 9 ans, 10 ans, j'étais en classe. Et de la même manière que à 9, 10 ans, on peut avoir les premiers sentiments pour des femmes lorsqu'on est un homme, certains hommes ont eu immédiatement, et l'ont vécu comme ça. Ça les a même surpris. Vous voyez, c'est ça que souvent les témoignages, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, d'homosexuels, que j'ai souvent entendus. Donc ce n'est pas un choix.
C'est souvent un choix. Prenez simplement 3 personnes célèbres, même 4, qui ont toujours revendiqué leur homosexualité. Oscar Wilde, Frédéric Mitterrand, Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld. Ce sont des gens très différents entre eux d'ailleurs, mais ce sont des gens qui ont toujours considéré ça comme un choix, pas comme une contrainte ou pas comme une...
Ah ben non, oui. Mais enfin bon, je voulais simplement faire cette petite mise.
D'Oscar Wilde à Karl Lagerfeld, il y a de la marge quand même.
Alors André, Pierre-Emmanuel va vous répondre, mais ça sera après la pause. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Bon, Pierre-Emmanuel, vous vouliez dire un petit mot à André peut-être ?
Oui, écoutez, avant de répondre sur le fond, je note qu'une fois de plus, c'est une personne qui introduit en expliquant qu'elle n'est pas catholique, qu'elle est parfaitement athée et qu'elle n'est pas d'accord avec l'Église catholique. La belle affaire. Bon, effectivement, c'est comme si je vous disais que c'est comme si je vous donnais mon avis sur une voiture alors que j'ai pas le permis de conduire, quoi. Donc, mais c'est un petit peu toujours pareil. C'est-à-dire que l'Église catholique est parfaitement libre, au même titre que les homosexuels sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent. L'Église catholique est libre de déterminer ce en quoi consiste son magistère et son enseignement. Sans qu'il soit forcément nécessaire de faire les gros titres à chaque fois, en faisant semblant d'être surpris que l'homosexualité, la pratique homosexuelle, soit considérée comme un péché dans l'Église catholique, alors que ça fait à peu près 2000 ans que c'est le cas, quoi. Et davantage même si on tient compte de la tradition juive. Et sur le fond, je vais vous ressortir, alors de tête, vous m'excuserez, mais des extraits de mon cours de droit civil qui a daté d'il y a 10 ans, et là je ne vous parle pas de religion, hein, je vous parle de droit civil et de philosophie fondamentale, anthropologique, qui disait quasiment, je cite, le mariage, le couple hétérosexuel seul est porteur d'espoir pour la société par la procréation d'enfants, là où le couple homosexuel est au mieux stérile par nature. C'est dur, ce que je dis, c'est dur.
Non, mais la société a un peu évolué, ça ne nous a pas échappé, Frédéric.
À la Sorbonne. Donc on ne peut pas taxer la Sorbonne d'extrémisme religieux, pour le coup. C'était dans mon livre. Et de poursuivre, par conséquent, c'est ce qui justifie que le couple hétérosexuel seul bénéficie d'institutions humaines pour le protéger et pour protéger les enfants qui en sont issus. Et
non, mais Pierre-Emmanuel, j'ai bien compris, c'est votre... Mais la société, le mariage pour tous, ça existe en France. Hein,
et c'est une erreur. C'est une erreur positive, précisément parce que... Je vais prendre un exemple.
Oui, Pierre-Emmanuel, je vous propose que Maryse intervienne, puisque Maryse, d'abord, elle pense comme vous. Donc, c'est important, mais il faut que la parole circule. Bonjour Maryse.
Bonjour Monsieur Pro, bonjour Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, je vous félicite. Vous avez
33 ans, j'en ai 50, je vous serre la main, je vous prends dans mes bras de façon virtuelle, évidemment. Distance sanitaire oblige. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous exposez des choses, on ne peut mieux. Je voulais soutenir justement cette prise de parole et dire que pour ma part, je suis également d'accord avec l'Église catholique. Bah, je suis catholique pratiquante, hein, je ne le cache pas. J'en fais pas un affichage, mais puisqu'il est question d'une position d'Église catholique, bah, il faut aussi que les cathos, on monte un petit peu, j'allais dire au front, non, n'exagérons rien, mais qu'on prenne un peu la parole. Parce qu'il est vrai, j'ai souvent constaté, et ça fait souvent débat avec des amis, j'ai des tas d'amis qui ne sont pas catholiques, j'ai un ami bouddhiste, j'ai des amis homosexuels, bah, ça ne surprend personne, puisque bah, des personnes homosexuelles, il y en a, donc c'est tout à fait possible d'avoir des amis.
Non, mais c'est cette notion de péché qui pose problème, c'est même
alors,
pas
vous,
que
le
l'institution...
Péché, ça vous coince, hein. Non, en
ah,
fait,
bah oui.
Le péché...
Bah
oui, ça vous coince parce qu'en fait, oui. Je pense que vous avez un regard assez étroit. Excusez-moi d'être franche, hein, 50 balais, je le peux. Vous avez un regard
possible,
assez étroit.
C'est possible,
Jean-Marie. Bah oui.
Je dois être étroit.
Non, je suis cache.
Oui. Je ne vois
cache.
Pas en quoi mon regard est étroit, mais vous allez me l'expliquer.
Bah parce qu'en fait, je pense que vous n'allez pas au fond des mots. Et comme la plupart des gens, et je ne comprends pas,
vous allez me dire, vous. Je vais reprendre ma petite définition et vous allez me dire.
Non, mais ça, on l'a entendu.
Selon le catéchisme de l'Église, le péché est une faute contre la raison. Est-ce que l'homosexualité est une faute contre la raison? Le péché est une faute contre la vérité.
Attendez, je vais vous répondre point par point. Oui. Contre la raison, parce qu'en fait, la raison se réfère au droit naturel. On n'en parle pas assez du droit naturel.
Mais qu'est-ce que vous racontez? La raison se réfère au droit naturel, mais vous avez lu ça où? Mais ça vient d'où, ça?
Je vais vous l'expliquer.
La raison, c'est le droit naturel.
Attendez, je vais vous l'expliquer. Si vous me coupez sans cesse la parole, comment voulez-vous qu'on avance? Alors, la raison se fonde sur le droit naturel. Le droit naturel, d'où sort-il? En fait, l'Église catholique, puisque d'Église catholique, il est question, hein, se réfère aux deux récits de la création dans la Genèse, qui ne sont pas l'explication du comment ça s'est passé. Ça, le comment ça s'est passé, c'est le rôle de la science. Mais qui est l'explication du pourquoi en un mot et du pourquoi en deux mots. Le pourquoi en un mot est l'origine et le pourquoi en deux mots est la destination. L'origine de la création... La science parle du Big Bang et la Bible dit que ce Big Bang, en quelque sorte, c'est la volonté de Dieu qui a voulu du néant faire surgir le créé dont nous faisons partie.
Bon, c'est et un peu. Créé... Je voudrais pas qu'on fasse une petite thèse. Mais oui, mais c'est un peu en verbeux. Fait, pardonnez-moi de le dire comme ça.
Alors, vous me disiez que j'étais dur.
Bah
alors,
oui,
vous,
non mais
c'est carrément insultant. Hein.
Non, mais
verbeux. Je vous remercie.
Mais c'est un peu
agréable à entendre. Non,
mais Maryse, moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire.
Ce qui vous intéresse, c'est apparemment, c'est de beaucoup couper la parole aux auditeurs. Pierre-Emmanuel a eu beaucoup de mal à expliquer tout à l'heure le point de vue qu'il soutenait et il a eu du courage.
Mais non, mais vous partez dans une théorie sur le Big Bang et la création.
Il ne s'agit pas d'une théorie, j'essaye de vous expliquer.
Oui,
vous
mais ça va être long et la raison, en plus, vous êtes à côté. Parce que c'est des interprétations qui n'ont pas de sens, en fait. Je vous dis que donc je veux bien vous laisser aller sur la création pendant un quart d'heure et m'expliquer le droit naturel, mais ça n'a rien à voir avec la raison.
En fait, si vous ne coupez pas la parole, ça dure 5 minutes. C'est
non, mais parce que bon.
La création dit comment.
Mais ça n'a rien à voir avec la raison. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Rien.
Parce que l'homme est le seul être créé qui soit doué de raison. L'animal agit d'après ton espèce. En fait, on ne peut même pas parler d'agir en animal. L'animal est tout à fait, comment dire, dans l'ordre naturel des choses, en agissant selon son espèce. Il n'y a pas de souci. Mais l'homme est celui qui pense son acte. Et c'est sur cette notion-là, j'y viens, avec grand peine, mais j'y viens. Cette notion-là que s'ancre la notion du péché, c'est-à-dire le péché, on loupe.
Donc c'est un manquement à l'amour véritable, l'homosexualité. C'est un manquement véritable à l'amour véritable et envers Dieu et son prochain. Ben vous voyez, je vais vous dire, Maryse, moi j'ai été élevé dans... Pierre-Emmanuel et Maryse, je vais vous dire, moi j'ai été élevé dans les églises catholiques. Je suis resté 10 ans, j'ai eu tous les sacrements de l'église catholique. Je suis à la messe tous les dimanches. Je vous assure, c'est ce que vous dites est incroyable. Je peux pas vous dire autre chose. C'est incroyable. Alors, ce que je sais, c'est que parmi les catholiques, il y a très peu de gens qui aujourd'hui sont comme vous. Mais je pense que vous êtes sur une frange intégriste du catholicisme. Et dans toutes les religions, il y a cette frange-là. Je ne vous condamne pas, hein, mais je la mets un peu en perspective. Maintenant, je vous laisse la parole, Pierre-Emmanuel et Maryse.
Ce que vous dites,
on l'aura compris de haute lutte.
au sujet de la minorité que nous formerions au sein des catholiques, c'est objectivement faux. Hein. Pour les personnes qui vont à la messe le dimanche, je veux dire, l'immense majorité, l'infinie majorité, accueille dans une espèce de accueille de façon filiale l'enseignement de l'Église. La deuxième chose, saint Thomas d'Aquin, pardonnez-moi, Pascal Praud,
mais si vous m'appelez saint Thomas d'Aquin,
vous pouvez pas faire semblant de ne pas comprendre en quoi la pratique homosexuelle serait pécamineuse si vous ne relisez pas la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, où là c'est vraiment la substantifique moelle essentielle de ce pourquoi.
Non, mais c'est ce rapport aux écrits.
C'est en ce qu'il est contraire à la vérité, parce que c'est ça. C'est ça le truc, c'est que c'est contraire à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que l'agir ou la fin du mariage est la génération des enfants. La fin
du mariage. Allez-y, vous avez raison. Et je voudrais ajouter que, excusez-moi Pierre-Emmanuel, je vous interromps un tout petit peu, mais c'est pour aller dans votre
sens. Je vous
bénis
quand même et je vous aime quand même, mes frères, et ma sœur, qui
n'est
pas d'ambiguité. Mais je ne fais pas le clown, mais vous, je veux dire, vous êtes sur l'antenne d'RTL sur un discours hyper intégriste, donc je le souligne.
Est-ce qu'on peut aller à l'échange
de vérité auquel on n'est plus habitué aujourd'hui.
Je ne vais pas la caser.
Maryse, allez-y, Maryse.
Bon, elle va dire, donc ça aurait été dur. Je voulais dire que je reviens toujours à mon fameux récit de la création. Ben oui, parce que c'est l'origine. Il est écrit à deux reprises, homme au singulier et femme au singulier, il les créa. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'union totale, c'est-à-dire y compris charnelle, hein, elle est voulue pour l'homme et la femme, pas entre deux femmes et entre deux hommes. Ça ne veut pas dire qu'on va condamner les personnes homosexuelles au pire supplice. Les histoires, on a été accusés, les cathos, quand on n'a pas été les seuls à manifester, mais quand on a manifesté en opposition au texte sur le mariage pour tous, on a été accusés de dire les pédés au bûcher et des conneries dans ce genre. On n'a jamais dit
merci
ça.
Merci en tout cas, Maryse et Pierre-Emmanuel.
Ça jamais été les slogans des manifs. Hein,
merci beaucoup. Et en tout cas, là, vous avez eu l'espace, évidemment, et c'était aussi intéressant, hein, comme toujours, d'entendre et d'écouter des gens qui ne partagent pas forcément notre avis. Alors, une pause, et puis on va écouter tout de suite après, ce sera Jean-Michel pour faire une petite conclusion.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, André est là. Et Jean-Michel aussi est là. Bonjour Jean-Michel, vous habitez en Eure-et-Loire. Vous avez écouté notre petit débat?
Oui, et je suis resté très calme.
Mais moi aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il ne faut pas couper la parole. En revanche, là,
Non. Enfin, je vous remercie de me donner la parole, Pascal. Et tout en respectant Marie et Pierre-Emmanuel, c'est ça. Juste une question, moi, c'est que je ne sais pas si Pierre-Emmanuel a des enfants, mais si un jour il a des enfants et que est homosexuel, ben j'aimerais avoir sa réaction pour savoir comment réagirait. Parce que nous, ça nous est arrivé comme ça, c'est-à-dire on a deux enfants, fille et garçon.
Oui, c'est pas une maladie.
Homosexuel.
Hein.
Non, mais justement, je me suis beaucoup renseigné là-dessus quand nous, on a une autre fille qui nous a déclaré son homosexualité, et on sait que c'est pas une maladie. Un choix, oui, on peut dire un choix, comme disait André, mais c'est inné, je veux dire. Après, je suis comme Pierre-Emmanuel et Marie, je suis d'accord avec, en disant qu'il n'y a pas de souci, la nature a fait un homme, une femme pour faire des enfants. Maintenant, on a accepté notre fille telle qu'elle est. Ça fait 10 ans qu'elle est en couple avec son amie, elle a deux enfants, puisqu'elle a, par PMA, bien sûr, hein, qu'elle a elle-même porté. Et aujourd'hui, ma fille fait sa démarche de rentrer à l'église, donc elle est catéchumène et elle va se faire baptiser, là, si tout va bien à Pâques, si on n'est pas confiné. Donc, l'église, je pense qu'elle est en train d'évoluer quand même au niveau de l'homosexualité, puisque le prêtre n'a pas voulu, s'est monté jusqu'à l'évêque, et là, la réponse a été OK, donc elle peut poursuivre son entrée à l'église. Voilà, parce que nous, on avait fait le choix à l'époque de ne pas les baptiser, aux grandes dames de nos parents et de nos grands-parents à l'époque. Pour leur laisser le choix d'une religion. On les a quand même élevés en fêtant Noël, Pâques, en leur expliquant à quoi ça correspondait, quoi.
Merci Jean-Michel de ce témoignage. Donc elle prépare son baptême, hein. C'est ça qui est important quand même.
Voilà. Et
donc
elle a 31 ans.
Bah, effectivement. Alors le baptême ne pose pas de problème, hein. Bien sûr, c'est le mariage qui est impossible entre deux personnes du même sexe dans l'église de Rome.
lors de son enquête, quand même, quand elle a fait son baptême, bon, ouais. Elle a dit, bah, c'est bien, elle a des enfants, bon, ok, elle n'est pas mariée, bon, et le papa, bah non, c'était pas le papa, quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'après, ça a commencé.
Non, mais c'est une démarche individuelle, le baptême, alors que par définition, le mariage est plutôt une démarche à deux, a priori, en tout cas.
Bien sûr, ouais.
Bah, merci, mais, Jean-Michel.
Mais, encore une fois, c'est loin d'être une maladie, ni un choix, ni rien.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et je me dis, si Pierre-Emmanuel a des enfants et qu'il y en a un qui est homosexuel, et ben voilà. Je me dis, bah, est-ce que c'est le pauvre Pierre-Emmanuel ou pauvre enfant?
Bah, c'est-à-dire que, enfin, bon, chacun vit sa religion et comme il le veut et comme il le peut.
Mais on est au 21e siècle, hein, la Genèse et Dieu qui marchait sur l'eau et qui transformait l'eau en vin, enfin bon. Voilà, il faut vivre avec son temps aujourd'hui.
Frédéric, très vite, parce que Frédéric est transsexuel. Non, il est homosexuel, pardon. Oui. Ah, je lisais mal, alors excusez-moi, hein, parce que je lisais très très mal la fiche qu'on me transmettait. Et vous vouliez témoigner parce que vous n'êtes plus accepté par l'Église catholique. Ça veut dire quoi, de plus être accepté?
Je me sens pas accepté. Moi, je suis marié avec mon mari, du coup.
Ah oui. Et vous avez le sentiment d'être rejeté.
Pardon?
Vous avez le sentiment d'être rejeté.
Oui. Donc j'ai fait mon acte d'apostasie.
Et les conséquences de cela, puisque vous êtes marié aujourd'hui.
Oui. Bon. Ça fait 7 ans.
Bon, les conséquences de ça, c'est que vous n'allez plus à la messe, par exemple?
Oui. Alors, je vais aux enterrements, au mariage. Je ne fais pas le signe de croix, mais je vais. Voilà, je respecte les croyants. Mais voilà, non, je me suis complètement retiré de ça, puisque. Enfin, puisque moi, on ne m'accepte pas tel que je suis, alors que Dieu...
Vous avez le sentiment qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes.
Voilà, et je suis comme je suis. Je n'ai pas choisi de l'être. La seule chose que j'ai choisi, c'est de vivre ma vie d'homosexuel. Je n'ai pas choisi d'être homosexuel.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est effectivement, au début de votre adolescence, que vous avez découvert, j'imagine, votre attirance pour les hommes.
Bien sûr, oui. Ah oui, je me suis... Oui. Et j'ai été élevé dans une famille catholique où j'avais le droit, très bizarrement, mon père, par exemple, m'a dit que j'avais le droit d'avoir des relations homosexuelles, mais il fallait que je sois marié avec un enfant. Voilà. Et lui, il va à l'église tous les dimanches. Hein. Voilà. Quand j'entends ça, enfin, moi, ça me met hors de moi.
Bon, c'est dommage, on aurait aimé prolonger cette conversation. Et là, il est 14h24 et c'est l'heure du débrief. Mais si vous voulez, on peut la poursuivre demain, Frédéric. Merci, en tout cas. Et pour le moment, c'est Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Covid-19, épisode 82.
Le maître du temps, c'est le virus.
Ce moment est venu.
Les régions de l'Île-de-France et des Hauts-de-France seront-elles reconfinées? Si oui, pour le week-end, toute la semaine, le Premier ministre Jean Castex doit annoncer à 19h de nouvelles restrictions pour ses 18 millions d'habitants. Avec nous en studio ce midi, notre Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL.
Benjamin Sportouche, qui est indispensable dans ces émissions d'avant-annonce, puisque vous nous dites avec une prudence extrême ce que vous ne pouvez pas dire, parce que vous ne le savez pas.
C'est un concept, venir sans rien annoncer. Et en attendant ce soir, Marine a tenu à pousser un coup de gueule.
Ce qui me dérange surtout, c'est la façon dont en fait cette crise sanitaire est traitée, parce que je trouve que le climat est relativement anxiogène et on a vraiment l'impression que le gouvernement ne sait pas où est-ce qu'il va.
Christophe, lui, n'en peut plus de ces restrictions.
Ce sont des personnes âgées qui meurent un peu plus vite, pour le 75% des cas. Donc on arrête de nous faire croire que c'est la lèpre, le choléra ou la peste bucolique. Donc maintenant, notre seule technique, c'est on vous planque dans un coin comme au Moyen-Âge.
Et même tonalité, vous allez l'entendre chez Jean-Christophe.
On est dans les mêmes réactions depuis un an alors qu'on connaît la maladie maintenant. Pourquoi les gens ont peut-être moins peur du virus? C'est parce que précisément on le connaît. Et encore une fois, attraper la Covid ne veut pas dire en mourir.
Mais une question revient, quand retrouverons-nous une vie normale? Allez Gilles, s'est lancé dans un pronostic.
Courage, un jour on verra le fin, il paraît qu'on nous libérera en 2050. Si je fais le bilan des opérations, le confinement, en gros c'est l'ultime mesure d'impuissance qui précède le prochain, qui lui-même précédera le suivant. En gros, il y a plein de gens qui sont censés protéger nos fesses, qui visiblement protègent mieux les leurs que les nôtres.
Autre sujet dans l'émission, le Vatican a réaffirmé en début de semaine la doctrine de l'Église catholique. Considère l'homosexualité comme un péché, impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir les sacrements du mariage. Un avis que partage Pierre-Emmanuel.
Vous considérez que l'homosexualité est un péché ?
Je le considère, absolument, oui. Précisément, je le considère précisément parce que j'essaye de faire preuve d'humilité, de comprendre un petit peu ce que...
C'est très courageux de le dire à l'antenne, hein.
Pierre-Emmanuel, autre chose à rajouter ?
La deuxième chose, Saint-Thomas d'Aquin, pardonnez-moi, Pascal Praud.
Oui, si vous m'appelez Saint-Thomas d'Aquin.
Saint-Thomas d'Aquin, ce petit surnom vous va bien, Pascal. Allez, un dernier mot, cher ami, avant de se quitter.
Je vous bénis quand même et je vous aime quand même, hein, mes frères. Hein,
non,
qui
mais,
pas, et ma sœur, hein, qui
n'est
pas d'ambiguïté.
Alors arrêtez de faire le clown, Pascal Praud. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec le conseil du jour d'Eddie Mitchell.
La grande prêtresse de 15h30 est là, de 14h30 même, puisque nous n'avons pas encore avancé d'heure. Elle va entrer jusque dans là. Quelques instants. C'est la grand-messe. Et Flavie Flamand fait son entrée en musique. A tout de suite.
J'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout seul.